Et il est 10 h à la pendule de fréquence 7, l'heure de se retrouver pour un nouveau et dernier journal des rencontres du cinéma d'Europe. Et non, c'est pas le dernier, il y en a un autre à midi! Yeah!
Bonus. Ah merci Nicole, on entend maintenant. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Bienvenue dans ce journal des rencontres un peu spécial, c'est un bonus. À 10 h, à l'heure de la messe, nous allons communier autour d'une belle, belle émission, de belles rencontres, en compagnie de Jean-Pierre Améris, bonjour.
Bonjour.
Et de Muriel Magellan, bonjour.
Bonjour.
Autrice, scénariste pour votre film Marilyn et son juge. Et c'est René qui est allé le voir, qui l'a apprécié.
Apprécié beaucoup.
Qui l'a apprécié.
Ouf, de même que j'ai apprécié le roman d'ailleurs.
Ouf.
Ouais, ça, ouf, démarre bien.
Ça démarre bien. Tout cela, mais c'est pour ça.
En plus, c'est sincère, donc.
Merci.
Ça me coûte rien.
Pour un film émouvant et utile,
oui,
m'a-t-il
oui,
dit.
Oui, je crois que c'est ça. Oui.
Émouvant et utile, dans les deux cas,
oui, c'est ça. J'aime si ce côté utile. On a besoin de films et de romans utiles dans le monde où l'on vit. Voilà. On rentre dans le vif du sujet.
Ben on y va tout de suite, on va au cœur de la matrice directement.
Voilà, alors puisqu'on va au cœur de la matrice, allons au Havre. L'action du roman se déroule au Havre, l'action du film se déroule également au Havre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix à la fois d'un point de vue romanesque et d'un point de vue cinématographique?
Alors d'un point de vue romanesque, je commence peut-être. C'était plusieurs raisons. D'abord, j'avais l'impression que la notion de départ était importante. Or, le Havre est un port, donc il porte. C'est une ville qui porte en elle la question de partir ou ne pas partir. Je voulais également que ce soit une ville qui est la trace de plusieurs classes sociales. Donc une histoire de classe populaire très forte, mais aussi depuis quelque temps une dynamique qui va vers un côté un plus bobo dans lequel les personnages peuvent se croiser, notamment Marie, dans le livre elle s'appelle Marie, et Alexandre. Et puis il fallait aussi que ce soit une ville assez grande pour qu'il y ait un tribunal, pour qu'il y ait un juge, et assez petite pour qu'on puisse croiser ce juge dans le cœur de ville. Voilà.
Et d'un point de vue cinématographique?
Ah, pour moi, une évidence. Hein. Il fallait garder cette ville comme lieu de l'action. Et puis d'abord, je l'aime beaucoup, cette ville. Hein. Et elle était formidable à filmer. Elle n'a pas toujours bonne réputation. Hein. Les gens dans l'équipe disaient « Oh là là, t'es sûr, Le Havre, on va y passer 2 mois » et tout ça. Et en fait, ils étaient enchantés. La chef opératrice dit « c'était un bonheur de la filmer parce que reconstruite après la guerre, hein, elle est très graphique, hein, avec les immeubles de cet architecte Auguste Perret, quoi. Donc c'était vraiment intéressant, et sur le plan graphique, sur l'ambiance, et puis c'est vrai qu'il y avait quelque chose de vraiment provincial, hein, dans le sujet, donc ça correspondait bien.
D'accord. Alors, donc un peu un choix symbolique du Havre en même temps. Bon, ville détruite et reconstruite, il y a ça aussi, comme peut-être un peu les personnages.
Oui, c'est vrai, oui, tout à fait.
Il y a cette dimension, je crois.
Oui, c'est, même si les personnages ne sont pas détruits, mais là, ils sont reconstruits. Oui, voilà. De se reconstruire, oui, c'est très juste.
Ouais. Alors, beaucoup de scènes où les personnages se déplacent à pied, mais surtout en voiture. Bon, elle le poursuit le long des rues à un moment, et en voiture, bien sûr, il y a de nombreuses scènes en voiture. Alors, bon, le scénario l'imposait, évidemment, mais c'est peut-être pas tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces nombreuses scènes en voiture?
Ben, c'est le postulat que j'ai tellement aimé dans le roman, hein, quand je l'ai découvert donc, en 2019, à sa sortie, hein, donc c'est le cinquième roman.
Et changer le sens des rivières.
Voilà, nous n'avons pas gardé le titre du livre, Changer le sens des rivières. C'est devenu, de façon peut-être un peu plus banale, Marilyn et son juge. Mais là, ce sont les questions commerciales, hein, du cinéma. Le distributeur ne croyait pas aux vertus commerciales d'un film qui s'appellerait Changer le sens des rivières. Donc, bon, c'est la réalité du cinéma aussi. Et moi, dans ce roman de Muriel Magellan, j'ai tellement aimé ça, quoi. la thématique, hein, le déterminisme social. Est-ce que quand on est né du mauvais côté de la barrière sociale, comme l'héroïne, Marilyn, est-ce qu'on peut éventuellement changer le sens des rivières, le cours des choses? Et puis la grâce des rencontres, hein, elle va rencontrer ce vieux juge, hein, qui va l'engager comme chauffeuse, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes de voitures. Donc il y avait vraiment une évidence cinématographique, j'aimais la thématique, les personnages, et puis cette situation de cette fille qui va conduire ce vieux juge, et vous avez vu, dans une voiture particulière, hein, c'est ma coccinelle à Monte Carlo à moi, une Twingo, quoi. C'est un des gros changements, hein, par rapport au roman, où c'était une Ford Fiesta.
Je suis très trahie sur ce coup-là.
Elle va pouvoir dire. Muriel, à qui j'ai proposé d'adapter son propre roman, mais qui n'a pas voulu le faire, parce que c'est pas facile de s'adapter soi-même.
On en parlera justement. Cette voiture, c'est presque un personnage. Elle a une valeur symbolique, elle aussi, elle est embauchée, mais elle tourne quand même. Et j'ai envie de dire qu'elle va bien à Marilyn, et qu'elles sont en symbiose, si je puis me permettre. Parlez-nous un peu de cette voiture.
Il fallait vraiment, en effet, que ce soit un personnage, hein, et c'est un des partis pris, hein, vous l'avez vu, hein, moi c'est très coloré, hein, le film ne fait pas l'économie des difficultés sociales, mais quand même c'est assez gai, joyeux, coloré, moi ce que je fais, ça ressemble à Marilyn, en effet. Mmh. C'est une fille, hein, qui s'habille un peu comme une punkette anglaise, hein, comme on voit dans les films de Ken Loach, hein, avec un blouson façon drive aussi, les cheveux teints en rose, enfin donc elle met de la couleur dans sa vie, quoi, hein, qui est pourtant une vie pas facile, elle est aidante, elle s'occupe de son père qui a eu un accident du travail, etc. Mais c'est une fille pleine de vie, pleine de d'enthousiasme et de joie. Et donc sa voiture, voilà, je voulais qu'elle fasse partie des personnages, hein, et elle est comme eux, mais comme vous disiez, de la ville du Havre, hein, blessée, un peu cassée, mais vaillante, quoi. Elle ne tombe jamais en panne. Elle crève une fois, mais elle ne tombe jamais en panne. Donc c'est vraiment mon moteur, hein. C'est ce que j'ai tellement aimé dans ce roman, hein. Des personnages cabossés, comme j'aime toujours dans mes films, mais qui s'en sortent et qui avancent surtout. Moi, c'est ce que j'admire chez les petites gens, comme on les appelle.
Peut-être, pardon. Moi, je suis le fou de l'émission. C'est-à-dire, je n'ai pas vu le film. Je laisse René en parler, mais juste ce que ça m'évoque, je me dis, mais peut-être va-t-il, puisque vous parlez des enjeux commerciaux du film, je me dis, mais peut-être qu'il va y avoir, à l'instar de Barbie et des figurines qui sont qui montent en flèche, la Twingo va peut-être devenir, va, c'est peut-être son heure de revival.
C'est vrai. Ouais.
C'est drôle parce qu'en plus on l'a acheté à une dame âgée qui pouvait plus conduire. C'est une voiture qui a quand même 25 ans au bas mot. Et cette dame en avait pris soin, mais comme de la prunelle de ses yeux, hein, de cette voiture. Elle n'avait pas un pet. Hein. Et moi je savais très bien que nous, avec l'équipe de décoration, on allait la cabosser et lui donner une porte bleue alors qu'elle est rose, la voiture. Et la pauvre dame nous a dit, vous en prenez bien soin. Et nous, bien sûr, on lui a dit, ah, bah, vous pensez bien, bah, j'espère que cette dame n'a pas vu le film, ça va lui faire mal au cœur. Hein.
Voilà. Alors, une question toute simple. Est-ce que techniquement, ça pose des problèmes particuliers de tourner des scènes en voiture? On se pose toujours la question quand on voit un film. Comment ils font?
C'est une Twingo, en plus, hein, ouais, qui avait la première version des Twingo, ouais, remarquable, ouais. Habitabilité, hein, ça, ouais. Il faut le dire. Mais après... Allez, je vais dire un secret là pour vos auditeurs, hein. Peut-être, je sais pas s'ils viendront voir le film cet après-midi, là, c'est à 17h là au navire, mais on peut le dire, ce n'est pas tourné en voiture en circulation, c'est tourné en studio en fait, hein, les scènes de voiture, parce qu'il y en a en effet pas mal, hein, 12, et on sait que dans une Twingo, il faut quand même la caméra, la chef opératrice, l'ingénieur du son, moi quand même, qui suis quand même plutôt grand, donc... Et donc, on s'est dit, c'est pas possible. Michel Blanc avait fait un film avant qui s'appelait Docteur, beaucoup en voiture, et c'est l'une des premières choses qu'il m'a dites. Il m'a dit, voilà, j'adore votre scénario, le personnage, mais si c'est en vraie voiture, je le referai pas, quoi. Parce que dans Docteur, c'était tout le temps en voiture, la nuit, et c'est très compliqué. Et c'est pas agréable, quoi, hein, pour communiquer entre metteur en scène et acteur. Et donc, c'est tourné en studio, selon le vieux principe des transparences. Hein, comme on voyait dans les films d'Hitchcock, magnifique, la main au collet, Cary Grant qui conduit en regardant... Grace Kelly qui conduit en regardant Cary Grant sans regarder la route. Hein, mais on voyait la transparence derrière. Claude Sautet adorait ça aussi. Hein, chez Claude Sautet, c'est toujours des transparences, c'est-à-dire un écran derrière, hein, avec le paysage qui défile. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec une technique assez moderne, que des écrans autour de la voiture qui est sur une scène de théâtre au Havre, et des écrans à droite, à gauche, au-dessus pour faire les reflets. Et même Louane, donc, qui conduit la voiture, a un écran face à elle et qui voit la circulation qu'on a filmée auparavant. Donc très confortable et puis ça permet une belle lumière.
Et est-ce que c'est pas un peu frustrant pour les acteurs, parce qu'un acteur digne de ce nom joue avec tout son corps là, ils sont compassés quand même, non?
Compassé, non, je dirais pas. Et puis, encore une fois, tout le film se passe pas en voiture. Mais c'est vrai qu'il y a des grands modèles. Hein. Mmh. Moi, je pensais à Green Book, un film que j'adore. C'est avec Viggo Mortensen, beaucoup en voiture. Hein. Mmh. C'est magnifique. Et c'est l'idée, hein, je sais que Muriel, hein, tu étais contente le jour où tu as trouvé ça. Quoi. Il va l'engager comme chauffeuse. Et c'est là où beaucoup de leur relation, hein, de ce que cet homme va apprendre à cette fille, de ce que cette fille va apporter à cet homme, se passe. C'est un petit huis clos, c'est une boîte. Mais justement, il y a tout le paysage derrière, on passe devant la mer. Et pour eux, c'était formidable. Ça joue vraiment, en effet, sur les regards, quoi, beaucoup. Hein. C'est d'une intimité, quoi, une voiture. Hein. Muriel aime beaucoup conduire. Et c'est son bureau.
C'est vrai que j'avais choisi la voiture pour ça, pour les mettre au plus près l'un de l'autre, qu'il n'ait pas le choix d'échanger, de se parler. Mmh. C'était important pour moi que ces deux personnages soient un peu pris en otage par la voiture, par l'habitacle, pour pouvoir finir par se parler.
Alors, les acteurs, Michel Blanc et Loane, c'est un duo pour le moins improbable, et pourtant ça marche merveilleusement bien. Est-ce que l'alchimie a opéré tout de suite, dès le premier jour de tournage, entre ces deux acteurs, ou est-ce qu'il y a eu un long travail d'adaptation?
Vous savez, beaucoup de la réussite d'un film tient à ce qui se passe avant le tournage. Hein. C'est la préparation, les répétitions, d'autant qu'il s'agit d'un relativement petit budget, donc c'est tourné vite, hein, c'est tourné en 30 jours, quand il faut plutôt 35 ou 40 jours pour faire un film d'une heure et demie, là c'est 30 jours. Donc il faut que les choses se soient passées avant, et tout se passe quand vous présentez vos deux acteurs principaux lors d'une lecture. Quoi. C'est la meilleure façon, je trouve, de faire tomber le trac. On a tous, moi, Louane et bizarrement Michel Blanc, c'est émouvant de voir ces acteurs qui ont fait tellement de films, hein, qui crèvent de trouille, hein, en même temps avant un film, hein, ils ont souvent plus l'impression de savoir jouer. Et donc dès cette première lecture, tout un après-midi, on lit le scénario, et j'ai vu que ça prenait entre eux. Quoi. Il y a vraiment quelque chose que j'ai eu à filmer après, c'est le bonheur d'un réalisateur, hein, de filmer une rencontre pareille, une affection entre ces deux, une complicité. Elle m'a aidé aussi, par moments, elle le chambrait, et lui est quand même le roi des râleurs, hein, quand même. Hein, ça, et je le dis avec affection, mais quand même, ça va jamais. Quoi, et ça. Vous lui dites bonjour le matin, ça va Michel? Non. Donc, et donc il râle, il y a une scène, on peut le dire sans déflorer, il y a un chien et tout ça. Donc j'avais l'impression de tourner une scène de cascade. Quoi. Il déteste les chiens, le chien l'empêchait de jouer, il me disait je ne peux pas jouer avec un chien qui a mauvaise haleine dans mon cou. Enfin bon. Et donc elle m'a aidé, voilà, mais comme dans le film. Hein. C'est une fille qui, un spectateur a dit, lui finalement, il va l'éveiller à la curiosité, au plaisir d'apprendre, de découvrir des films, des livres, et puis surtout de l'estime de soi. Et puis elle va le réveiller. Quoi. Et vraiment, il y avait quelque chose de ça entre eux.
Mmh. Et vous n'avez pas appréhendé avant le tournage, vous n'avez pas eu quelque inquiétude?
On a toujours le trac, ouais, hein, de toute façon, avant de faire un film, je ne suis pas d'une nature extrêmement sereine, hein, donc on a le trac, mais c'est normal. D'ailleurs, moi je pense que c'est le signe, hein, il faut presque avoir peur de faire un film, à chaque fois on remet vraiment les compteurs à zéro, vous voyez, c'est pas parce que j'en ai fait 20 que je détesterais l'idée de dire « oui, je sais faire, hein, ça va ». Non, à chaque film on le découvre, bien sûr on a le trac, mais voilà, le meilleur remède contre le trac c'est le travail, il faut voilà, rentrer dans la matière, répéter, choisir les décors, travailler, c'est ce qu'il y a de mieux contre le trac, puis c'est quand même une joie, hein, c'est quand même ce qui l'emporte.
Et puis il y a un bon stress, paraît-il, il y a un stress qui est productif.
Bien sûr, hein. Et puis on a affaire, hein, c'est quand même hein, les acteurs, les actrices, Muriel est réalisatrice hein, aussi, ce sont des êtres humains, quoi, hein, bizarrement. Et donc ils ont chacun leurs difficultés, par exemple Michel Blanc, en effet, a priori, mais encore une fois, je le dis vraiment avec estime et affection, mais et voilà... Là, il avait vraiment aimé les dialogues, hein, par exemple, hein, qui sont de Marion Michaud, qui est la scénariste adaptatrice du film, donc un formidable dialoguiste, et lui qui est un grand dialoguiste, hein, et grand scénariste et excellent réalisateur, a vu que c'était très bien, donc il n'a jamais rien remis en cause. Hein. Mais en revanche, je pense que c'est un gros traqueur, en fait. Hein. Mais c'est ça qui est étonnant. Hein. Moi, j'ai fait trois films avec Benoît Poulvorde, Mort de traque, Gérard Depardieu, Mort de trouille sur l'homme qui rit. Enfin,
ils ont beaucoup à perdre.
Mais tout à fait. Hein, au stade où ils en sont, et puis c'est vraiment touchant. Hein, ils ont souvent plus le trac, ces grands professionnels, que des débutants. Hein, c'est vraiment...
Vous n'avez jamais travaillé avec des non-professionnels?
Si, souvent.
Et là,
j'adore.
Qu'est-ce que ça donne?
Ah, moi, j'adore. Hein, puis notamment, j'ai fait quand même plusieurs films avec des enfants, des adolescents. Et c'est merveilleux hein, de tourner aussi avec les enfants hein, cette première fois. Hein. Non, j'ai toujours aimé le mélange, justement, professionnel, non professionnel. Encore une fois, hein, c'est ça, quoi. Donc, il faut s'adapter au trac de ces gens. Il ne suffit pas de dire « action, vas-y, sois bouleversant, donne-moi des choses intimes ». En plus, hein, moi, j'essaye de les dépouiller de leurs trucs, de leur savoir-faire, et qu'ils soient au plus près d'eux-mêmes, quoi, hein, que ça soit vrai. Donc, il ne suffit pas de direction, il faut accompagner, parfois il faut payer un peu, enfin, il faut supporter leur peur, leur trac. Par exemple, il y a une scène là où, je ne sais pas, l'un et l'autre, une scène d'émotion quoi, vers la fin du film, et, qui jouait sur les silences normalement, hein, ça flotte, quoi, moi j'aime filmer ça. Et tous les deux me l'a joué absolument façon comédie, tac au tac, aucun silence. Et donc, moi, je fais pas beaucoup de prises, mais une prise, deux prises. Puis je leur dis, tiens, faisons une troisième prise avec des silences, quoi. On cherche ce qu'on veut dire, ça flotte, quoi. C'est ça qui est beau dans la vie aussi. Hein. Et Michel Blanc me dit, bah, si tu veux emmerder ton public, on va te les faire, les silences. Donc, il faut l'entendre. Et j'ai insisté, il faut vraiment savoir insister. Hein.
Et c'est cette prise que vous avez conservée ?
Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, de toute bonne foi, il a reconnu que j'avais raison, mais de temps en temps... Voilà, il faut... Ça résiste. Parce que c'est dans les silences qu'ils prennent des risques, hein, justement. Hein. Là, il faut être, hein, c'est pas que les répliques. Hein.
Mmh. Alors, ce qui est intéressant chez ces deux personnages, à la fois dans le roman et dans le film, c'est qu'ils évoluent. Et surtout, elle surtout, mais lui aussi. Ce qui est finalement plutôt rare, statistiquement, au cinéma, voire en littérature. On a plus souvent des personnages statiques. Et si on veut, de même qu'on peut parler de romans d'éducation, on peut parler de films d'éducation. En ce qui concerne bien sûr le personnage de Marilyn. Et il me semble que c'est une dimension importante et du roman et du film. Cette dimension d'éducation au sens fort du terme.
Alors moi, j'avais une vigilance, je dirais, quand j'ai écrit le roman, et j'ai demandé à Jean-Pierre de la voir aussi. Je ne voulais pas créer un personnage de Pygmalion avec le juge. Je ne voulais pas que ce soit quelqu'un qui soit en surplomb et qui explique la vie à une jeune femme. Je trouvais plus intéressant que cet homme blessé n'ait aucune envie de transmettre. Et que ce n'est pas du tout son propos, et elle... Elle ne sait pas, elle est ignorante, pense-t-il, et bien qu'elle le reste, quoi, d'une certaine façon. Et c'est par, justement, le contrat qu'il passe avec elle et cet habitacle que l'humanité transpire et que ça transmet tout seul. Et c'était ça un peu ce qui m'intéressait, c'était de me dire que... Comment on apprend ? Bien sûr, on apprend à l'école, on apprend parfois par une rencontre majeure de quelqu'un qui va nous expliquer les choses, mais parfois on apprend juste par imprégnation et par le fait qu'on est dans un univers qui nous permet d'être curieux, c'est très naturel. Or, Marie, qui vient d'un milieu très endolori, élevée... par un père seul,
pénible,
dont elle a la charge maintenant, une sœur qui est partie, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue. Elle a un contexte où, effectivement, l'imprégnation, elle n'est pas favorable. Donc, elle ne sait pas de son potentiel, elle ne le connaît pas. Je cherchais la façon d'éveiller en elle la prise de conscience de son potentiel, de ce qu'elle est capable de faire. Et par rebond, elle a une sorte de joie de vivre, un peu, en tout cas de pulsion de vie dans le roman et de joie de vivre dans le film, parce que dans le roman, c'est plus une pulsion. Bon, elle a moins d'humour dans le roman qu'elle en a dans le film, mais elle a cette énergie. Et ça, lui, ne l'a plus. Et c'est vrai qu'il est au contact, lui aussi par imprégnation, il va voir une pulsion de vie comme ça, tout à côté de lui, et ça va aussi faire un effet. Donc oui, il y a du mouvement, d'ailleurs c'est aussi pour ça que la voiture c'est intéressant, parce que c'est du mouvement, mais on ne s'apprend pas les choses volontairement, ça circule, voilà.
D'accord.
C'est pas My Fair Lady.
Non, c'est pas My
spectatrice
Fair Lady.
Spectatrice Mathis, ça fait penser à My Fair Lady, mais là, c'est vraiment Pygmalion, par définition.
Non. Pas du tout. Mais il y a bien aussi dans le film cette dimension d'éducation, évidemment.
Oui, mais surtout cette fille hein, qui a pas beaucoup de culture, mais elle est intelligente. Elle hein, ça n'a rien à voir, ouais. Évidemment. Elle a de l'esprit, elle est drôle. Mais il va surtout, hein, en effet, hein, l'encourager à être curieuse, quoi. Par exemple, quand à la radio, elle entend le mot symbiose, que vous citiez, elle rigole parce qu'elle n'a jamais entendu ce mot, et il ne va pas lui expliquer ce que c'est la symbiose, il dit « tu regarderas ».
Et elle regarde.
Et elle regarde, voilà, c'est ça qui est formidable, et c'est quand même moi, le message que je voulais essayer de transmettre, hein, même au jeune public, comme on dit, mais c'est ça, encourager à aller voir des choses qui, a priori, ne vont pas vous plaire. À un moment donné, elle va découvrir un film de François Truffaut en noir et blanc, et moi qui fais beaucoup de séances scolaires, j'adore ça. J'aime la transmission quand même, hein, c'est mon thème. Et souvent, les gamins, hein, je le vois, même proches de nous, disent « Oh là là, c'est quoi ce film 1962, quoi, et tout ça, en noir et blanc. » Oh, pour peu que ce soit sous-titré, là, c'est la mort, quoi. Et puis finalement, une fois qu'ils sont devant, hein, ils sont contents, quoi, ça leur apporte des choses. C'est ne pas avoir d'a priori. Hein.
Vas-y.
Alors, autre dimension du film et du roman qui retient l'attention, c'est sa précision. Il y a un travail sur les détails qu'on ne perçoit pas forcément toujours de façon consciente, mais qui joue un rôle important. Les regards, je ne sais pas, à un moment, elle raccompagne le juge chez sa compagne et elle lui jette un regard qu'on voit à peine. Il y a la scène, la voiture, et le petit copain, elle est là, elle le voit, il va traverser la rue, elle ne sait pas quoi faire. Et tac, la porte s'ouvre. C'est des bonheurs de ciné, et plaisirs de cinéma, ça, pour un cinéphile. Et je trouve que vous nous gâtez beaucoup, et dans le roman, et dans le film. Voilà. Est-ce que vous pensez tous les deux, qui êtes des créateurs, que le diable est dans les détails ?
Oui. Je pense que, en tout cas, la notion de détail, c'est... Ce qu'il faut voir, c'est que écrire un roman ou faire un film, c'est créer un monde et demander au lecteur ou au spectateur d'y croire. Et donc, effectivement, pour qu'il y croit, il va falloir beaucoup de petits détails qu'il ne percevra peut-être pas tout à fait, mais qui vont finir par faire qu'on obtienne de lui une sorte de chèque en blanc sur l'histoire qu'on est en train de lui raconter. Donc c'est extrêmement important, et c'est aussi la question du charme, à mon avis. Je ne sais pas si le diable est dans les détails, mais le charme, sans aucun doute. Parce que ce sont ces petits échos qu'on crée d'un chapitre à l'autre, qui commencent à tisser un fil qui fait que notre lecteur... nous croit, en fait.
Et c'est peut-être quelque chose d'un peu comme dans l'assaisonnement d'un plat, qu'on ne fait pas un premier jet, mais qu'on ajoute à la relecture de ce qu'on a fait.
Oui, ça peut, mais ça peut aussi... c'est un mélange. Il y a des choses qu'on rajoute quand on retravaille, oui. Mais comme c'est aussi de la construction, le détail, ça fait partie de la construction. Il y a quand même des choses qu'il faut qu'on ait... penser à l'avance, et donc c'est vrai que c'est une étrange chose que ce monde qu'on crée, là je sors de l'écriture de mon dernier roman qui va sortir en janvier, qui s'appelle La Fantaisie, j'en profite pour vous l'annoncer.
Chez Fayard ?
Chez Mialet Barreau, c'est-à-dire Flammarion, le groupe Flammarion, et... Je suis passée par là, donc c'est encore tout frais au moment où je vous parle. Cette étrange construction à gros piliers et puis des toutes petites choses qui font que la maison prend forme, en fait. Oui.
D'ailleurs, je souligne juste la similitude, vous dites ce monde concret.
Oui.
Concret.
Ah oui, oui, voilà. concret.
C'est vraiment vrai.
Oui, parce qu'on réaliser aussi, on le dit souvent, c'est rendre réel. Et c'est ça. Et finalement, quand on écrit, c'est pareil. C'est essayer de rendre réel un monde qui est simplement, rendre concret, donc, un monde qui est dans notre tête au départ.
Mmh. Et vous aussi.
Rendre partageable.
Pareil, oui. Ce monde. Les détails.
Ben c'est ce qu'on cherche comme réalisateur. On est là un peu aux aguets, hein, comme un cinéaste animalier. On cherche chez les acteurs ce moment où... ils échappent justement à ce qui était prévu ou quelque chose, un regard, enfin, ils sont complètement dans la scène, ils la vivent. Ça a été la grande affaire pour Louane, hein. Elle a finalement fait peu de films, hein. Bien sûr, La Famille Bélier, il y a 10 ans. Mais là, elle a découvert quelque chose, quoi. Je l'ai encouragée, je l'ai aidée à se lâcher, quoi, à vivre la situation. Jusque-là, elle était très traqueuse, elle n'a pas fait de cours d'art dramatique, elle est un peu comme Sandrine Bonnaire, quoi, hein. C'est des actrices sur qui le cinéma est tombé et qui ont une nature incroyable que la caméra aime, mais elle était un peu complexée quand même, hein. Et toujours dans à vouloir répondre à la question, est-ce que j'ai bien joué, quoi. Je lui disais, c'est pas l'important, c'est est-ce que tu vas vivre la situation, fais avec ce que Michel va faire, quoi, hein. C'est vie-là, quoi. Et c'est vrai que le spectacle, là, c'est le visage des acteurs, c'est les yeux, hein, comme toujours au cinéma, c'est dans le regard que passe la pensée. Et elle est tellement vive, quoi, hein, que vraiment, c'est pour ça que la caméra l'aime, quoi. Elle le regarde vraiment, elle l'écoute vraiment, elle vit la scène, c'est ça le spectacle.
Mais alors, est-ce qu'il y a parce que l'improvisation, est-ce qu'il y a une petite place dans le film pour l'improvisation?
Je dirais, non, il n'y a pas d'improvisation sur les dialogues, hein. Je vous dis, là, d'abord, même Michel et Éloane les ont bien appréciés à des détails près que l'on corrige pendant les lectures, hein, justement, pas au tournage. Hein. Ouais. Par exemple, à un moment donné, il offre à sa maîtresse, dans le film, il devait offrir une choucroute de la mer, quoi, lui faire livrer une choucroute de la mer pour lui faire plaisir. Et Michel Blanc m'a fait une fixette là-dessus. Je n'offrirai jamais à une femme une choucroute de la mer. Moi, je trouve pourtant que c'est le comble du romantisme et de la preuve d'amour. Et donc, j'ai transigé sur une paella. C'est une finale. Donc, vous voyez, des petites choses.
De la mer. Une paella de la mer.
Ah, il y a quand même encore.
On est bien dans les détails.
Des comètes, voilà. Non, mais vous voyez, il y a des petits blocages. Et vraiment, je comprends tout à fait. Des petites formulations. Hein. Il est tellement, Michel Blanc, en plus, consciencieux. Il apprend le texte 3 mois avant le tournage. Il m'appelait tout le temps. Donc, mais pas d'improvisation, non, au sens propre. Mais de la vie, quoi. Hein. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait, hein. Je pense que Muriel, tu seras d'accord aussi, que quelque chose décolle du texte. Ça ne veut pas dire, j'aime pas quand on dit j'ai fait le film contre le scénario, ça ne veut rien dire. C'est là, mais il faut lui donner sa respiration, sa vie.
Au contraire, est-ce que ça rejoint pas un petit peu ce que vous disiez, justement, même tout à l'heure, sur le mouvement, c'est-à-dire sur le mouvement pour qu'il y ait de la vie, un cadre, un habitacle, par exemple, une contrainte, une rencontre qu'on n'a pas forcément choisie, des dialogues qui ne sont pas forcément les nôtres, mais à l'intérieur de ces dialogues, alors peut se libérer quelque chose.
Voilà, à l'intérieur, hein, c'est ça, hein, la vie. Vous savez, moi, j'essaye de... Bon, je suis d'un naturel anxieux, donc je prépare énormément, c'est très... Vous savez, on me dit souvent, mais finalement, vous faites quoi, réalisateur, hein? Faites pas la lumière, faites pas le son, faites pas le maquillage. Non, mais vraiment, hein, c'est dans ma famille, les gens me disaient toujours, mais finalement, tu fais quoi, quoi? Et je dis, le réalisateur ou la réalisatrice, c'est celui qui a vu le film avant de le faire, dans les grandes lignes, hein, mais c'est une vision quand même, hein. Et donc ça, c'est vraiment important, mais on prépare au maximum. Et après, comme disait Jean Renoir, il disait, faut tout préparer, à un moment donné, espérer qu'une fenêtre s'ouvre et qu'il y a un courant d'air qui passe dans le film, quoi. Et c'est cette prise-là, un courant d'air, où quelque chose nous surprend qui n'était pas prévu. Mais c'est de l'ordre du regard, de la vie, hein, quand même, qui leur échappe. Michel Blanc a des moments d'émotion dans le film, je sais qu'il les a eus vraiment, quoi. Évidemment, je prends cette prise-là.
Bien sûr. Il s'agit aussi de préparer le terrain à l'inspiration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est très cadré, on sait ce qu'on va filmer, peut arriver quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Mmh. Alors que si on vient avec l'inquiétude de qu'est-ce que je vais filmer, il n'y a pas la place pour être inspiré. Pour être inspiré, Bergman le disait aussi, préparer, répéter énormément, disait-il, pour le théâtre. Et à ce moment-là, quelque chose va peut-être se passer. Donc c'est vraiment inverser le processus.
Qui était-ce, Bergman?
Tu connais pas, c'est un chanteur.
C'est marrant, un grand musicien de jazz, on lui demandait s'il répétait, les musiciens de jazz improvisaient, il disait, on joue 8 heures par jour, donc effectivement,
voilà,
on peut improviser.
Je crois pas qu'il y ait d'improvisation, même un grand cinéaste comme Maurice Pialat qui... détestait l'idée du savoir-faire, quoi, hein, et de faire juste ce qui est prévu, quoi. Il détestait ça. Donc il y avait sa façon de tout casser, quoi, pour de mettre une mauvaise ambiance, d'insulter les gens, mais encore une fois, voilà, je dis pas que c'est une bonne méthode, hein, mais c'était la sienne, et pour que quelque chose de la vie apparaisse, quoi. Ça peut pas être juste enregistrer ce qui était prévu, quoi, lui faire un film.
Alors, autre aspect du film, c'est sa dimension sociologique. Les notions de milieu social, de code, de valeurs, de normes sont mises en scène avec un réel bonheur. Je pense par exemple, je prends l'exemple dans le film parce que c'est différent dans le roman. Ils sont au restaurant, lui il boit un vin blanc de qualité, elle boit du coca. Bon, ça c'est évidemment, elle ne respecte pas le code là. La synagogue, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pareil pour ce qui n'est pas le cas dans le film d'ailleurs, pareil pour les normes et les valeurs, et ça rend le film extrêmement convaincant, extrêmement vrai, parce que cette dimension sociologique est intégrée au film de façon très organique. Et j'imagine que tous les deux, vous avez beaucoup pensé à ça en amont. Parce que sinon, ça deviendrait pièce rapportée.
Ah oui. Oui, non, il fallait... je pense qu'on a eu effectivement tous les deux la même vigilance de ne pas caricaturer Marie ou Marilyn parce qu'elle vient d'un milieu populaire, etc. Je pense que ce sont deux mondes différents, mais quelquefois, il y a des espaces communs quand même. Et donc, il faut les définir. Par exemple, la question de l'intelligence était très importante pour moi, et je pense que pour Marion et Jean-Pierre aussi, au scénario. C'est-à-dire qu'on voit à tout moment que son intelligence, elle marche à 200%. Ce qu'elle n'a pas, c'est les références.
Les codes.
Les codes et la culture, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qu'est... qui est François Truffaut, c'est le point de départ, d'ailleurs, de l'histoire. Et il y a des choses qu'elle ne connaît pas, mais par contre, le raisonnement est très vif.
Et alors, là où le film s'éloigne radicalement de la sociologie, ou en tout cas d'une certaine sociologie, je pense à la sociologie critique, Bourdieu et compagnie, c'est que contrairement à cette sociologie, le film refuse l'idée d'un conditionnement, d'un déterminisme où se mêle le plomb, qui fait que chez Bourdieu, on ne peut pas s'en sortir en fait. Et ça, je trouve que c'est très important et très grave. Marilyn a beau être blessée par les aléas de la vie, ou Marie dans votre roman, et parce que lui impose son milieu, c'est son père et tout ça, elle a ses propres atouts pour s'en sortir, elle a du répondant. En cela, le film est non seulement beau et émouvant, mais il est utile. Je crois qu'il faut dire ça. Il faut dire qu'on peut s'en sortir, même quand on est d'un milieu prolétaire. Et ça, vous le faites tous les deux merveilleusement.
Oui. Tiens, pardon.
Oui, c'est vrai quoi. On y tient. Et c'est vrai que c'est pas Bourdieu, puisque Bourdieu enferme un peu. Mais il y a quelque chose de Bourdieu et ça, dans le fait que le livre et le roman racontent que la culture peut être aussi discriminante. Et ça, c'est vrai que ça, Bourdieu l'a exprimé.
Le capital culturel.
Oui, la distinction sociale.
Oui. Oui, parce que si on n'a pas les codes, si elle ne sait pas qui est Truffaut, elle n'ira pas. Il y a des endroits où elle n'ira pas. Et c'est faux de dire que, mais si, c'est pas grave, parce que le milieu culturel, les gens cultivés sont tolérants. Non, on sait très bien que non, et que nous-mêmes, entre nous, des fois, on s'exclut parce qu'on n'aime pas telle ou telle chose en commun, ou parce que... Donc, c'était important pour moi de raconter ça. Ensuite, sur le fait qu'elle s'en sorte, c'était aussi important là pour nous, je pense que Jean-Pierre...
C'est essentiel. Moi, je ne pourrais pas faire un film. Hein, on me reproche des fois une certaine naïveté, on dit, mais, et un optimisme, mais moi, j'y crois, quoi. Franchement, j'y crois. Et puis, pour ce qui me concerne, hein, adolescent, quand j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais faire des films, c'était ma passion. Hein, et mes parents, et mon père notamment, très désespéré, et m'a dit « Oublie, quoi. » Cette phrase terrible qui m'est restée, c'est pas pour nous, quoi. D'un milieu modeste, c'est impossible, quoi, d'aller faire du cinéma. Le cinéma, il faut être d'un milieu riche, c'est que du piston, tout est joué d'avance. Et vraiment, je lui en veux pas du tout. C'était son désespoir. Et puis, il était tout fier après quand il a vu les premiers films avant de disparaître. Mais tout de même, c'est pas pour nous, quoi, de base, quoi. Hein, il faut vraiment batailler. Je crois que Muriel, hein, t'as eu moins à batailler peut-être, mais c'est ça aussi quand même. Hein.
Je sais pas, non, j'ai eu beaucoup à batailler. Mais, ce que je voulais raconter aussi, c'était que ce transfuge de classe, ce que fait Marie. C'est héroïque en fait. Et je voulais vraiment raconter une héroïne, mais dans un acte très discret de cet héroïsme. Mais en réalité, moi, mes parents ont fait cette chose de sortir d'une classe extrêmement populaire pour aller vers des métiers tout à fait passionnant et rémunérateur, mais je n'avais pas mesuré, c'est vraiment en étant mère moi-même que j'ai mesuré à quel point c'était héroïque d'avoir fait ça. Même si on était dans une époque où l'école et accompagner peut-être davantage. Il y avait peut-être moins le plafond d'une classe sociale à l'autre. Mais c'était ça que je voulais raconter. Et je trouve que ce qui est important, et je crois que c'est présent dans le film et dans le livre, aussi, dans le livre et dans le film, c'est de ne pas nier la difficulté de ça. C'est pas, oui, c'est possible. On est raconteurs d'histoire, donc on raconte l'histoire où c'est possible. Mais on sait que c'est difficile. Et il s'agissait pas pour nous de ne pas montrer un monde difficile.
Oui. Alors, le roman est plutôt écrit au style indirect, voire ainsi dire indirect libre, et il n'y a pas énormément de dialogues, alors qu'évidemment, le film, les dialogues ont été un gros travail à ce niveau. Alors, comment vous avez fait pour les écrire, pour les prélever en transparence du texte du roman? Comment vous avez fait?
C'est tout un art, hein, c'est celui de la scénariste, dialoguiste, entre autres. Et puis forcément, on dit toujours, et j'aime pas trop cette expression, adapter, hein, pour un livre pour le cinéma, c'est le trahir, quoi. Je pense pas que tu aies été trahi. Mais c'est passé d'un art à un autre, hein, dont les moyens sont absolument différents. La littérature, la romancière écrit, en effet, Marie pense que, enfin, on est dans ses pensées, tu décris son état d'âme, tu... Au cinéma, je suis confronté, à moins d'avoir une voix off du personnage qui dirait ses pensées, mais comme chez Truffaut justement, mais je suis confronté à un être, quoi, de chair, et il faut la montrer en action. Donc c'est trouver les équivalences adaptées. D'abord, c'est pas illustré, hein, c'est trouver les équivalences pour arriver au même sentiment que dans le livre, mais par les actions et les dialogues. Après, il y a un changement, c'est vrai, de ton, quoi, hein, peut-être. Hein, le film est un peu plus comédie, hein, que ne l'est le roman. Mais après, comme dit souvent Muriel, hein, tu cites un nommé Goethe, je ne sais pas, un copain Bergman, je crois.
C'est ça,
hein.
Ouais. Aussi. Ouais. Ils ont fait des duos.
Et qui parlait de la culture. Hein. La citadelle intérieure, tu dis. L'important, ouais, c'est pas de trahir sur le cœur, quoi. Mmh.
Oui, exactement. Je pense qu'on trahit une œuvre quand on trahit sa citadelle intérieure. Après, sur la forme, ce n'est pas très grave. Moi, je suis adaptatrice. Ça m'est arrivé souvent de travailler sur des romans. Et j'essaie de préserver la citadelle intérieure du livre. Mais je sais très bien que je vais devoir bousculer la forme. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire... l'adaptation, d'ailleurs, puisque Jean-Pierre me l'avait proposé. Ouais.
Autre chose qui m'intéresse beaucoup chez vous, dans vos films, et pas que dans celui-là, vous étiez venu nous parler d'un autre film, « Je vais mieux », je sais pas le titre, oui, où se posait le problème du langage. Là, le juge, dans le film, ne lui explique pas grand-chose. Il la renvoie elle-même, il l'envoie bouler, d'ailleurs. Il ne lui fait pas la morale, mais surtout, il ne lui explique pas. Et ça, c'est important. Il ne lui explique pas parce qu'il a inconsciemment, sans doute, il a confiance que ça doit venir d'elle. Et en même temps, ça témoigne du fait que, pour vous, le langage ne résout pas tout.
Sans doute. Mais en tout cas, hein, c'est tout le talent, hein, des enseignants. Hein. Par exemple, moi, c'est vrai que moi, je n'avais pas trop lu, j'aimais pas lire jusqu'en cinquième, hein, ce qui est tard. Et c'est un professeur de français au lycée Jean Perrin à Lyon, d'où je suis, là, monsieur Canard, et allez savoir pourquoi, qui m'a donné le goût de la lecture. Hein, parce qu'il lisait sur l'estrade formidablement, mais c'est pas quelqu'un qui disait « il faut lire Émile Zola et Victor Hugo hein, ». Il l'a fait passer, ça passe par ailleurs. Donner le goût, quoi, donner le plaisir. Moi, c'est ce que j'admire chez les enseignants et chez celui-ci.
Mais je vais plus loin, oui, parce que dans le film « Je vais mieux », rappelez-vous cette scène, ils sont en train de divorcer, il va voir sa femme, ils ont beaucoup parlé, c'est un divorce à l'amiable, et il a l'air de lui dire « mais non, on a parlé, mais il faut autre chose », il a presque envie de se battre avec elle. Il y a aussi ce sentiment de l'impuissance du langage à aller au cœur des choses chez vous, dans vos films. Alors, mais c'est un art de l'image, le cinéma, justement.
Sans doute, alors ne m'en voulez pas, hein, je ne suis pas trop analyste de mes propres films, il y a une grande part, hein, de choses faites de façon instinctive, hein, inconsciente, mais peut-être ça m'intéresse, hein, que vous me dites. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Muriel?
Sur l'absence de langage, le langage qui ne résout pas tout dans tes films, on peut citer Illettré, effectivement, que Jean-Pierre a fait.
Que tu as écrit.
Et que j'ai écrit, adapté d'un roman de Cécile Ladjali. C'est vrai que dans Illettré, il n'a pas les mots. Donc, cela dit, ce que raconte le film, c'est que sans les mots, point de salut.
C'est paradoxal, bien sûr.
Oui, c'est paradoxal, puisque finalement, c'est au moment où finalement il acquiert la lecture qu'il s'en sort, quoi, qu'il reprend le goût à la vie. Donc,
ce que je crois comprendre de ce que vous dites, en effet, c'est que moi, c'est toujours des histoires de communication, comment des gens enfermés en eux-mêmes, par la timidité des émotifs anonymes ou par le handicap de Marie Hortin, arrive à se libérer et à se lier. C'est ce que j'aime filmer. Donc ça passe en effet quoi, par la langue des signes ou par les mots, mais avec des gens en effet qui sont parfois maladroits d'ailleurs avec les mots.
Voilà, j'avais prévu bien d'autres questions que je ne pourrais pas
vous
poser.
Il nous reste un petit peu de temps, on peut prendre un peu de temps
quand
si
même.
Tu veux.
Oui, je voulais demander, alors le problème, parce que là c'est plus, beaucoup plus général, le problème de l'adaptation d'un roman au cinéma, le roman c'est l'art du développement. Le cinéma, c'est plutôt l'art de l'ellipse. Hein, on est obligé d'utiliser des ciseaux quand on fait un film. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse de côté? Voir qu'est-ce qu'on ajoute? Ça doit être déchirant quand on a affaire à un roman comme celui-ci. On est bien obligé de sauter des choses.
Il faut dire quand même que ce roman-là, hein, parmi tes sept romans, et sans doute celui qui se prêtait peut-être le plus à une adaptation, une situation très concrète de cinéma quand même, une rencontre entre deux personnages dissemblables, un lieu, la voiture, le tribunal, enfin, donc il y avait quelque chose de vraiment cinématographique là-dedans. D'autres de tes romans, hein, comme Géante, sont peut-être plus littéraires, purement littéraires, et non plus difficiles à adapter peut-être.
Plus difficiles à adapter, tout
mais
simplement.
Mais pas forcément, mais ça peut...
En tout cas, celui-là, c'est vrai qu'en l'écrivant, je me suis dit, il est cinématographique, alors que quand j'aborde la forme du roman, je ne pense pas cinéma, parce que comme j'écris aussi des scénarios par ailleurs, si je pense cinéma, j'écris un film. Donc si le roman est choisi, c'est parce que c'est une forme qui va à ce sujet-là, à ce que j'ai envie d'en faire, effectivement, de développer, d'être à l'intérieur de mes personnages, etc. Cependant, en écrivant Changer le sens des rivières, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de cinématographique, même si ce n'était pas si évident que ça.
Non.
Et d'ailleurs, je savais que quand il se pencherait sur le sujet, il découvrirait beaucoup d'obstacles, parce que je savais que le chemin, justement, le point A et le point B des personnages est très très rapproché en vérité. Il ne se passe pas autant de choses qu'un scénario le demanderait de façon classique. Mais heureusement, le cinéma a aussi d'autres façons de...
Non, il y en a gardé quand même beaucoup de bonnes scènes. Oui. Mais, par exemple, il faut mettre dans un scénario, il faut mettre les gens ensemble. Par exemple, Marie, dans le livre, ne vit pas avec son père. Moi, une évidence, je les fais vivre ensemble, quoi, pour les confronter. Quoi, hein. Le cinéma, c'est l'art de la confrontation entre les personnages.
Oui, il y a une autre scène emblématique de l'adaptation, c'est que Alexandre et Marie, donc le jeune Alexandre, on n'en a pas parlé, c'est Victor Belmondo qui l'incarne, et qui est le jeune homme qui va s'éloigner d'elle parce qu'elle n'a pas la référence de François Truffaut, et que lui étant passionné de cinéma, il se dit « je ne vais pas pouvoir aimer quelqu'un durablement qui n'aime pas le cinéma comme moi, c'est ma passion ». Tout ça, tout ce mouvement, ça se passe dans le roman en une scène, une longue scène. Et je peux aller dans la tête de Victor Belmondo. Je peux montrer que Marie voit le regard de Victor, donc d'Alexandre. Je peux prendre le temps de raconter ce qui est en train de se passer dans les deux têtes pour arriver à « il me méprise ». Je vais la quitter, en gros. Hein. Au cinéma, ils ont choisi de rajouter une scène, parce que ça, c'est très compliqué, je pense, à filmer comme ça. Donc, ils ont rajouté une scène qui est une scène de groupe où les copains d'Alexandre sont là. Et c'est dans l'humiliation que font subir à Marilyn les copains qu'on comprend ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'Alexandre s'éloigne et qu'elle elle s'aperçoit. Voilà. Ça, c'est typiquement une scène d'adaptation.
Voilà, ouais. Oui, tout à fait. Mais oui, donc, bon, ça, c'est le métier qui permet de faire ça, c'est sûr. Est-ce que votre premier film était une adaptation de roman ?
Oui. Moi, sur 20 films, enfin 14 pour le cinéma, 6 pour la télé, il y a quand même 12 adaptations. Hein. Donc,
ouais.
C'est quand même assez.
Et dans lequel vous avez travaillé ?
Littérature. Et le premier film, Le bateau de mariage, adapté d'un roman de Michel Beignet. Quoi.
Que vous avez travaillé tout seul ou avec un scénariste ?
Non, on a d'abord travaillé avec une scénariste, là, Caroline Bottaro, et ensuite, comme ça donnait, on n'y arrivait pas vraiment, on nous a dit qu'il faudrait prendre un professionnel, et j'ai eu envie, justement, d'aller chercher, d'aller travailler avec Jean Gruau, qui avait écrit des merveilleux films de François Truffaut, que j'adorais déjà. Et ça a été vraiment une belle école de travailler avec ce Jean Gruau, qui nous engueulait tout le temps. Je me souviens de sa formule, il disait « Vous faites toujours le mauvais choix entre ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut dire. » Mais il nous a beaucoup appris, ce Jean Gruau, formidable.
Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que là aussi on pourrait continuer à écrire un bouquin sur vos travaux, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ah, c'est un plaisir.
Ce beau roman, ce beau film.
Merci beaucoup pour votre accueil. Hein. Et on fera la rencontre avec le public, donc à 17h au navire, quoi, avec débat et signature du roman de Muriel à 16h.
Juste avant, oui.
Surtout
dans le hall du cinéma.
Ouais. Faut pas rater ça.
Mais en tout cas, ça m'a donné très très envie de le voir. Ouais. Et ce que j'en retire, c'est vraiment un film de vie, où la vie, tout s'échappe.
Ça s'échappe. Bien quand même, hein, qu'on en sorte des films avec l'envie d'en découdre.
Eh ben, merci beaucoup. Donc, je rappelle, Marie-Line et son juge, nous étions avec Jean-Pierre Améris et Muriel Magellan, qui a écrit le livre qui a inspiré le film « Changer le sens des rivières ». Merci beaucoup René, qui parfait intervieweur. Merci Nico, de l'autre côté, toujours là. Nous, on se retrouve, puisque non, ce n'est pas le dernier. Il y a encore un journal des rencontres, tout à l'heure, là, dans 1h15, midi. Oui, une 15e édition, la 15e et la dernière, avec Itsaso Arana pour son film « Les filles vont bien ».
Claro que si.
Claro que si. Allez, donc à tout à l'heure et puis à demain pour L'onde curieuse.
C'est ça.
Allez. Est-ce que tu es...